Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
C'est rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Voilà, il est 19h pile, la pendule la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info du jeudi, un Canu Info un peu raccourci cette semaine puisque nous devons partir avant la fin pour rentrer chez nous avant le début de ce couvre-feu qui empêche les médias alternatifs de fonctionner, hein, puisque nous n'avons pas de dérogation, contrairement aux médias dominants qui, eux, ont le droit de continuer de fonctionner en direct puisqu'ils ont des salariés et que le patron peut faire une attestation et que nous, il n'y a pas de patron.
Tu auras inventé aussi la téléportation.
Ouais, ça, j'y travaille.
On va partir, tu vois.
J'y travaille, t'inquiète pas.
Donc, nous allons parler de plein de choses ce soir. On va parler d'énergie et d'environnement avec toi, Laurent. Nous parlerons de gros sous. Ce sera plutôt avec moi. Nous parlerons de pauvreté. Nous parlerons aussi de nourriture, que tu as appelé dans le déroulé bouffe, parce que tu es un peu vulgaire quand tu parles. Nous parlerons de ni Dieu ni maître et peut-être d'autres choses, mais c'est pas gagné puisque nous avons déjà beaucoup de choses. Nous pouvons quand même ouvrir ce Canu Info en se rappelant tous et toutes ensemble que le 17 décembre 2010, un homme va provoquer un printemps arabe en Tunisie. Cet homme, c'est Mohamed Bouazizi. Il se rend au marché de Sidi Bouzid. Il va emmener sa charrette, hein, parce que franchement, c'est quand même un peu ça, hein, l'outil de travail qu'il a. Pour vendre, il faut se souvenir qu'il est un clandestin sur ce marché, puisqu'il n'a pas d'autorisation pour se placer, qu'il n'a pas assez d'argent pour graisser la patte des policiers et des policières sur place, qu'il a l'habitude, hein, de voir confisquer sa marchandise ou voler, on ne sait pas bien, qu'on détruit son matériel, sa balance, qu'il doit payer quand ce matériel est confisqué, pas simplement détruit ou volé. Et puis ce vendredi 10 décembre 2010... Les policiers sur place viennent d'abord l'enquiquiner, puis carrément le bousculer. Alors, il s'est formé aussi une légende, hein, sur ce moment et cette journée, parce que c'est un moment fondateur de cette révolution tunisienne et un moment rassembleur. Donc, il y a de multiples histoires, de multiples témoignages. Il faut en retenir l'essence, c'est que Mohamed va vouloir se plaindre, aller accompagner avec d'autres marchands pour se faire entendre, qu'il va être rejeté, qu'il se sent discriminé, qu'il a perdu sa dignité, il se sent mal et bah, il va se mettre le feu. On peut le dire de bien des manières. C'est un acte horrible qui se passe ce 17 décembre 2010 et qui va amener des hommes et des femmes partout en Tunisie à se révolter, à descendre dans la rue, d'abord pour chasser leurs représentants, plus ou moins légaux, plus ou moins démocratiques, hein, on s'en souvient. Et ça va enclencher un printemps arabe qui a eu un effet plus ou moins réel sur les sociétés de ces différents pays. Ce qu'on pourrait quand même en retenir de quelque chose de positif, en tout cas c'est moi ce que je souhaiterais qu'on en retienne, c'est que les soulèvements qui vont arriver sur 2011 ont été suivis de d'autres soulèvements, d'autres rébellions et d'autres révolutions, mais c'est qu'on a surtout une ce qu'on appelle une jeunesse d'une manière un peu, moi je trouve, raccourcie, mais c'est qu'on a en tout cas des gens qui ont 20, 30, voire 40 ans, qui en ont marre de vivre dans une situation où leur soi-disant élu, leurs dirigeants sont corrompus, violents, en tout cas ne les écoutent pas pour la plupart, et vont se révolter aussi dans une révolte culturelle avec une demande de se libérer des mœurs conservatrices aussi dans les pays, vouloir aussi récupérer de l'argent, d'en avoir marre de voir cet argent partir aux mains des puissants et ne pas récolter le fruit de leur travail, d'en avoir marre des violences policières, d'avoir marre de tout ça. Il y a cette révolution, elle est restée dans les esprits, même si aujourd'hui on ne peut pas dire qu'elle soit réellement suivi.
Ah ben non, parce que après c'est le seul pays qui a maintenu un truc à peu près démocratique. Tous les autres, ils ont retombé dans des systèmes autoritaires, voire dictatoriaux. Et surtout, les élections ont amené les conservateurs au pouvoir les deux dernières fois, notamment religieux. Donc du coup, non, ils étaient une minorité, hein, ceux qui se rebellaient avec une idée de sortir de ce monde de droite, hein, d'idées de droite et réactionnaire. Voilà, c'est pas gagné, mais c'est le seul pays qui est un peu progressiste quand même dans le coin. Voilà.
Alors, on rappellera qu'en France, en 1968, je prends un parallèle qui est faux, moche, mais je vais le faire quand même. Il y a eu une révolution avec des jeunes, des gens qui avaient envie de changer aussi les mœurs, et pourtant, derrière, on a eu Pompidou. Voilà.
Oui, et puis les réactionnaires ont gagné la prochaine élection.
C'est pas simple, hein, voilà, mais on voulait quand même ouvrir sur cette affaire, parce que ça nous semblait quand même aussi important de se souvenir que, malgré tout, si une révolution, elle aboutit pas toujours, il y a quand même des choses qui prennent du temps, et au bout d'une décennie, malheureusement, il n'y a pas tout, mais il y a quand même des choses qui ont germé dans l'esprit d'un certain nombre de personnes dans ces révolutions du printemps arabe.
On va parler maintenant capitalisme et destruction de la planète. Le lien est évident, bien évidemment, avec une enquête menée par une ONG britannique sur les magasins de bricolage européens, et notamment en fait ce qui concerne les coupes illégales de bois dans les forêts russes. C'est The Guardian, le journal anglais, qui a publié un compte-rendu de l'étude hier, donc mercredi 16 décembre, et l'ONG qui a fait l'étude s'appelle EarthSight. L'étude s'appelle Taiga King. Une grosse étude, un long travail sur ces coupes de bois illégales. Ils sont arrivés à prouver qu'à peu près 100 000 tonnes de bois coupées légalement dans la taïga ont atterri dans les grandes enseignes de bricolage européennes, dont françaises, puisqu'en France, l'ONG cite le groupe ISB qui fournit du bois, notamment du mélèze de Sibérie, pour des magasins comme Monsieur Bricolage, Laurent Merlin, Castorama et d'autres. Donc vous avez reconnu des magasins bien connus qui ont donc vendu du bois issu de coupes illégales russes. Alors cette ONG pointe du doigt la négligence de l'entreprise, donc ISB pour la France, sur le contrôle de la provenance du bois. Alors c'est soit une négligence, soit une complaisance, hein. On n'a pas bien la réponse là-dessus, même si on a quand même des doutes, parce qu'ils sont quand même compétents, donc ils savent quand même chercher d'où vient l'origine. Normalement, en tout cas, ils sont censés le faire. Le Guardian précise d'ailleurs que ce commerce a lieu, ou a eu lieu, malgré l'interdiction de l'Union européenne d'importer du bois à la provenance dite suspecte. Une interdiction qui date de 2013 et qui impose aux importateurs, donc c'est bien ce que je disais, qui impose aux importateurs d'effectuer des contrôles. A priori, ils ne les font pas vraiment, ces contrôles. D'autant plus que l'affaire n'est pas nouvelle. On se rappelle d'un très gros scandale, hein, d'exploitation forestière illégale en Russie, d'ailleurs fait notamment par BM Group. C'était le nom de l'entreprise, et le président d'ailleurs était en prison. Il a été arrêté en 2019. Mais ça n'a pas beaucoup changé de choses, l'arrestation du président de ce BM Group, puisque le mélèze de Sibérie, notamment, a continué de transiter en Europe à travers, par exemple, le port de Kiel en Allemagne. Il partait de Saint-Pétersbourg, les bateaux. Et deux entreprises britanniques, clientes de ce BM Group, sont pointées du doigt pour avoir importé donc ces bois issus de coupes illégales. L'enquête met aussi en évidence l'existence de pots de vin, en plus des fraudes, tout ça avec un peu de corruption. Vous imaginez un petit peu le contexte de ces ventes et ce découpe de bois illégal. Alors ça se joue en Sibérie, Sibérie qui est touchée par un drame environnemental important. Alors il y a cette déforestation illégale, où on coupe des arbres qui ont une grosse utilité, hein, parce qu'il faut savoir que dans le coin il y a encore des ours, des loups, des lynx, des tigres, tout ça est en voie de disparition et parce que on coupe notamment leur habitat. Et puis il y a les problèmes aussi liés au dégel, puisqu'il y a un réchauffement important climatique. Grosso modo, en Sibérie, on est à la croisée du capitalisme destructeur de la planète et du réchauffement climatique, qui est issu de ce même capitalisme et aussi issu du comportement des Occidentaux et d'un peu tout le monde les émissions de gaz à effet de serre. Le directeur plutôt de Earthlight, il va plus loin. En conclusion de son rapport, il dénonce la négligence et l'hypocrisie de la part de l'Union européenne qui fait des lois et qui les fait pas appliquer. En fait, on sait très bien d'où vient ce bois. Eux, ils ont fait une enquête alors qu'ils sont une ONG. N'importe qui en Europe, dans les instances européennes, aurait pu faire la même chose. En fait, ce qui manque, c'est une volonté politique d'aller plus loin que les lois qui condamnent. On espère que donc ça ira plus loin. Voilà pour cette petite info. Faites attention. Alors, le consommateur, il a très peu de moyens de vérifier. Il faut quand même regarder d'où vient le bois. Si vous avez du mélèze de Sibérie, on vous conseille de pas en prendre, hein, parce que ce qui vient du coup de là-bas est quand même suspicieux. On n'est pas sûr de la provenance. Et puis une deuxième petite info drôle, enfin moi j'ai trouvé drôle, mais c'est pas forcément drôle pour les victimes. C'est samedi dernier, trois personnes sont parties chasser. C'est dans les environs de Saint-Priest. Quand ils sont revenus à leur véhicule, ces trois chasseurs, ils ont découvert les pneus crevés. Voilà, je me ris du malheur des chasseurs. Au final, tous les articles de presse, hein, parlent des méchants délinquants, tout ça. En tout cas, les méchants délinquants anti-chasseurs donc ont abîmé des pneus de voiture pendant ce temps que les chasseurs tuent des êtres vivants. Mais eux, c'est des gentils. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette courte rubrique.
Ah, on va parler gros sous.
Allez.
Je vais revenir avec mes licornes. Hein, vous avez vu, je recycle de Canu Info à un autre, ce que je n'arrive pas à passer en jeudi. Je le passe le jeudi d'après. On va d'abord parler du fraudeur de la semaine, hein, chez les capitalistes. On va parler de Luckin. C'est, si vous voulez, le Starbucks chinois. C'est simple, hein. Installé déjà avec 4200 magasins, c'est-à-dire plus de Starbucks en Chine. Et oui, il y a des Starbucks en Chine, si vous ne le saviez pas. Il y a de tout, hein, en Chine. Ouais, il y a du KFC, il y a du McDo, il y a de tout, hein, pratiquement. Donc il faut se rappeler que le pays a peut-être une autorité dite communiste, mais elle est rentrée avec les deux pieds dedans et les deux mains dans le capitalisme. C'est Luckin qui s'est fait taper sur les doigts aux États-Unis d'Amérique, a pris une amende de $280 millions par l'autorité américaine des marchés financiers, hein, ce qu'on appelle la SEC. Alors, c'est un accord, hein, qui est arrivé mercredi, qui va mettre fin à quelques déboires. Il faut dire que Luckin est accusé d'avoir falsifié ses comptes, hein, et pas n'importe comment, puisque ça serait $300 millions de ventes entre avril 2019 et janvier 2020 qui ont été fabriqués. C'est pas mal, hein, quand même. Les rapports trimestriels eux aussi étaient falsifiés. Alors le problème, c'est que c'est évidemment sur ces documents que vont se baser des investisseurs, et en particulier aussi les gens qui veulent s'amuser en bourse, puisque Luckin était... pourquoi c'est aux États-Unis que ça se passe? Parce que Luckin était rentré à Wall Street, à la bourse, côté au Nasdaq à New York, et ça s'est pas très bien passé, puisque quand il y a eu donc ces informations avant la sanction de cette tromperie, de cette supercherie, il y a l'action qui avait dévissé, comme on dit, et puis finalement la cote avait été retirée, hein, en juillet dernier, et puis après maintenant il y a les $180 millions de dollars. Le fondateur a été éjecté de Luckin. Alors, l'idée, c'est pourquoi mentir ? Pourquoi mentir ? Bah, pour faire venir les investisseurs et les pépettes, puisque sur la même période, Lukin a levé ou emprunté pour 864 millions de dollars sur les différents marchés. Ce qui veut dire qu'en fait, on a une entreprise qui a menti pour récupérer du pognon, ce qui est pas bien, voilà, tout simplement. Hein. Mais il faut dire que ça fait partie de ces entreprises qui se sont développées extrêmement rapidement, c'est-à-dire que, je vous parlais de Starbucks au début, pourquoi on fait la comparaison ? Parce que Luckin s'est développé parallèlement à Starbucks, sur le même marché. Ça fait partie de ces entreprises qui ont amené, ces multinationales, qui ont amené le café en Chine et qui ont développé la consommation du café en Chine, ce qui n'était pas une habitude hein, au début pour les Chinois et les Chinoises. Et très rapidement, Lukin a dépassé Starbucks en nombre de points de vente et aussi en nombre de consommateurs et consommatrices. Donc voilà, c'est un coup qui est porté. Et puis, je vous parlais de licorne. Alors, ça a été une vague hein, en 2020 de licorne. Alors, qu'est-ce qu'une licorne ? C'est une entreprise hein, qui est valorisée à plus d'un milliard de dollars. On est quand même dans des...
dans des gros trucs.
Voilà, on parle en milliards. Hein. Alors c'est Wish. Wish, vous avez, hein, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps pour ce donc plateforme de commerce en ligne qui se fait taper sur les doigts en France et qui faisait son entrée à Wall Street et bon, moyen, ouvert à 24 dollars hein, pour un prix d'introduction et qui a fini à un peu plus de 20 dollars. C'est un foirage, on peut le dire, c'est un foirage parce qu'en 2020, foirer son introduction en bourse quand on est une licorne, ça ne passe pas du tout. Bon, ça prouve que Wish a quelques soucis hein, à travers le monde. Par contre, il y en a qui font des réussites. Hein. On aurait pu parler, par exemple, de cette multinationale concurrente d'Uber Eats, qui s'appelle DoorDash, qui a fait une valorisation qui a dépassé les 71 milliards de dollars. C'est deux fois plus que ce qui était quand même attendu lors de son entrée en bourse. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui... une multinationale, une société qui vaut la moitié de McDo, alors que c'est tout neuf. Vous voyez un petit peu, Lady. Il faut quand même
C'est de la spéculation. Les investisseurs investissent dessus.
Peut-être, mais il faut se rendre compte de ce que ça veut dire aussi. C'est une entreprise qui n'a jamais réalisé de bénéfices. Et donc, aujourd'hui, DoorDash a levé plus de 3 milliards de dollars pour financer un développement, et en particulier sur l'international. C'est des chiffres énormes pour des entreprises qui ne font rien. On a eu des crises de 2008. Hein on a eu les bulles technologiques et puis aujourd'hui on recommence avec ces fameuses licornes qu'on valorise sans qu'elles fassent vraiment d'argent.
Ça montre un truc.
Ça commence à inquiéter quand même.
C'est qu'en fait les riches ont beaucoup d'argent et savent pas quoi en faire.
Surtout 2020. Il paraît que c'est voilà. Ça en fait. Il paraît que les fonds d'investissement et les riches, comme tu dis, ne savent pas quoi faire de leur pognon en 2020. Apparemment, je sais pas, le télétravail, ça amène des idées. Et donc il y a tout plein d'entreprises qui sont rentrées hein, en bourse cette année. Des licornes nouvelles qui tentent des valorisations, c'est des trucs de fou. Et on est dans des montants absolument incroyables. C'est-à-dire que même quand ça marche pas, les gens espèrent que ça marche. Et il y a une entreprise qui est rentrée là, hein, là, qui fait son entrée à Wall Street, c'est Airbnb, évidemment, multinationale que nous connaissons tous et toutes maintenant. Alors, c'est un succès. Pourtant, on pourrait se dire quand même que l'année 2020 n'a pas été une
bonne année pour eux, quoi.
Pour, en tout cas, le voyage, le tourisme et l'hôtellerie. Mais Airbnb a réussi quand même à fonctionner autrement, puisqu'il paraît que les gens ne voulant plus aller dans les hôtels, voir que les hôtels étant fermés, eh ben, les gens se sont repliés sur la location dite privée. Et donc, cet été, Airbnb a réussi à faire 219 millions de dollars. Hein, c'est quand même impressionnant pour une entreprise qui, en même temps, est en perte, hein, assez habituelle. Tout ça paraît paradoxal, mais c'est-à-dire qu'à un moment, là, il y a eu une belle activité qui s'est passée sur Airbnb et en même temps, c'est un modèle économique pour l'instant qui est à la peine parce que quand même Airbnb ne possède rien à part sa plateforme et ne fait que récupérer du pognon. Donc c'est-à-dire si le marché il marche, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et c'est vrai que 2020, on pouvait un petit peu s'inquiéter et pourtant une réussite hein, sur son entrée à Wall Street. Alors, c'est... étonnant, mais comme je le disais, donc il y a des gens qui pensent que c'est un modèle économique qui va se développer et qui peut vraiment réussir demain à marquer l'économie du tourisme, du voyage et même tout simplement de la location à court terme. C'est-à-dire sans même parler de tourisme. Et c'est sur cette question hein, que se bat d'ailleurs un certain nombre de villes contre Airbnb, c'est-à-dire que cette location à court terme, elle gèle la location tout court. Et c'est bien ça le problème. Donc là, on est sur une valorisation à 100 milliards de dollars. C'est plus que Booking.com, vous savez, le machin qui est une plateforme d'hôtellerie et qui fait maintenant aussi depuis quelques années, hein, mais qui voit apparaître aussi beaucoup sur ses sites internet en multilangue des aussi locations individuelles de particuliers. Il faut savoir que le numéro un mondial, hein, dans l'hôtellerie, c'est Marriott, c'est valorisé à 43 milliards de dollars. Accor, c'est 10 fois moins qu'un B&B. On parle entre 8 et 10 milliards de dollars.
C'est-à-dire ceux qui possèdent le truc important, c'est-à-dire là où on va dormir, ils sont moins cotés que ceux qui possèdent juste,
juste
l'appli. Mais ça s'appelle la spéculation.
C'est de la spéculation et c'est ça qui commence à inquiéter un certain nombre de gens, et j'espère bien que c'est important. Alors, Brian Chesky, il est tout content parce que là, c'est le patron de Airbnb. Il a fait beaucoup d'argent en très peu de temps. Il est rentré dans les, je crois qu'il est 180e homme-femme les plus riches du monde. Il a une participation de Airbnb qui est rentrée à plus de 11 milliards de dollars. Je vous enlève les millions parce qu'à ce moment-là, je crois qu'on
ça compte plus.
Ouais, on s'en peut plus. Enfin, on s'en fout, quoi. C'est une action qui valait 68 dollars lors de son introduction en bourse et qui, à la clôture, en valait 144 dollars. Donc, pour vous dire, il y a des gens qui ont vraiment investi sur Airbnb. Alors, chez nous, les licornes, on en espère. On en a une dizaine, hein, c'est pas beaucoup. Les plus connus, c'est quoi chez les licornes? C'est-à-dire des entreprises, des multinationales qui ont réussi à se valoriser à plus de 1 milliard de dollars. Alors, vous en connaissez certains, Doctolib, Blablacar, OVH, Cloud. Et puis, vous en avez d'autres, hein, que vous connaissez peut-être moins.
Ah, pour le coup, OVH, ils ont des serveurs, ils ont du truc physique un peu.
Mais je ne dis pas le contraire. On en a d'autres, hein, qui, donc, dessus, on a Dataiku, Kariba, parce qu'il faut des noms rigolos, Meru, Quantum Square, Ivalua, Voodoo et Meraki sont les derniers en date avec Septéo.
Alors, c'est évidemment... Je connais aucun de ce que tu as dit, là, à la fin. Je sais pas à quoi
alors,
ça sert, ces trucs.
Pour beaucoup, ils sont dans la tech, comme on dit.
Ouais, bah, on a bien
compris. Parce qu'on a bien compris. Ah, bah, pas tous, hein, mais c'est vrai que, soit en général, aujourd'hui, on a des gens qui sont dans la tech. Ouais, ça me fait marrer. Dans les plateformes, hein, c'est le principe de Blablacar, de Doctolib, c'est de la mise en relation, hein, finalement, puis on se fait du pognon sur le truc.
Bah, sur l'appli, en fait. Sur
sur toi, et qui va aller consommer sur l'appli. Hein. Et puis sur le vendeur et l'acheteur, hein, c'est ça, en fait. Hein, c'est le principe de l'intermédiaire, quand même, il faut le rappeler, c'est assez vieux hein, comme principe. Et puis on attend beaucoup ces derniers temps de Tetris, qui est fondé par deux ex-agents de la DGSE. Donc c'est spécialisé dans la détection des cybervirus, cyberespionnage, cybersabotage, enfin tous ces cybermachins, qui espèrent à un moment devenir aussi la nouvelle licorne française. Et si vous tapez ça un peu sur un réseau, sur un moteur de recherche, excusez-moi, vous allez voir que le mot licorne est très très à la mode en 2020 et qu'en plus, partout en France, on espère avoir la prochaine licorne. À Lyon, là, on espère avoir la prochaine licorne.
Oui, donc une jeune entreprise cotée 1 milliard.
Et en plus, valorisée 1 milliard.
Ouais.
Là par exemple Septéo c'est à Montpellier, donc ils sont très très fiers par là-bas dans le coin d'avoir une licorne à 1 milliard. Et donc c'est ce nouveau phénomène qui fait qu'aujourd'hui on valorise des entreprises qui pour l'instant, alors en plus certaines ne servent quand même pas à grand chose, mais d'autres quand même pour l'instant ne font rien, mais on leur donne de l'argent pour tenter de se développer et voir, on sait pas si ça pourrait marcher. Et voilà, c'est ça le principe.
Oui, alors là, tu as parlé des riches, il y a énormément d'argent, on s'en rend compte. Bizarrement, il est super mal réparti. On va parler des pauvres maintenant, pour montrer qu'eux, ils en chient toujours. Et comme quoi, il y a vraiment un problème de répartition. Donc on va commencer en parlant du logement social, puisqu'il y a un nouveau collectif. Alors ça arrive régulièrement, hein, ce que je dis, mais tant pis, il faut en reparler, de ces imbéciles de droite, de ces égoïstes de droite. C'est un collectif de 26 maires du Val d'Oise qui interpelle l'État, je cite, pour refuser le quota de 25% de logements sociaux obligatoires d'ici 2025. Je vais citer quelques mots. Ils disent, nous ne voulons pas stigmatiser par les bien-pensants. Donc les bien-pensants, c'est ceux qui veulent faire appliquer la loi. Hein. Hein, on les méprise, ces gens-là. Les 26 maires donc, du Val d'Oise, auteurs de cette interpellation dite publique, alors ils ont des super arguments. Donc ils disent, non mais attendez, nous c'est compliqué, si on fait ça, on va être obligé de créer des ghettos. Alors, justement, l'objectif, c'est de pas de créer de ghetto, c'est de faire l'inverse, c'est de déghettoiser un petit peu les pauvres. On va utiliser ce terme, sans chercher à dire autre chose. Donc voilà. Alors, eux, ce qu'ils voudraient, c'est la prise en compte d'un taux intercommunal et non plus au niveau des agglomérations. Alors, l'intérêt, c'est d'aller, de faire l'inverse de ce qui est dans la loi, c'est-à-dire dire, par exemple, pour une ville comme Lyon, il faudrait globaliser avec la métropole, c'est-à-dire avec Vénissieux, Vaux-en-Velin, tous les endroits où il y a déjà plein de logements sociaux, on a ghettoisé les pauvres, comme ça il y a moins besoin d'en mettre dans les quartiers riches. Voilà, c'est ce qu'ils veulent, ces égoïstes. Donc, leurs arguments, ils sont juste à l'opposé de l'objectif de la loi. Alors, c'est pas la première fois, hein. Déjà, la loi a été pas mal abîmée. Pour l'instant, c'est 20% qui est obligatoire et le 25%, c'est pour 2025. Et ça énerve tout ça, cette idée, qu'il faut pas mélanger les pauvres et les riches. C'est quand on est riche qu'on dit ça, en fait, hein. Donc voilà. Et, il y a une réponse qui a été faite, je sais plus par qui disait, mais regardez, dans le 16e à Paris, il y a eu des logements sociaux de créer et, ça n'a pas ghettoisé, hein. En fait, non, ça a juste mis quelques personnes un peu moins riches au milieu des riches. Voilà. Alors, à Lyon, qu'est-ce qu'il en est? Donc, le nouveau maire de Lyon s'est exprimé. Il a dit que, lui, l'objectif des 25% était atteignable et c'est son objectif. Donc, il veut respecter la loi, ce qui est normalement obligatoire, hein, de la part d'un maire. Mais là, on a vu que les 26 maires égoïstes, c'était pas leur truc, hein, de respecter la loi. Donc, Grégory Doucet, puisque c'est de lui dont on parle, il a fait un point de presse, hein, il y a quelques jours là-dessus. Il a dit que, il fallait absolument aller jusqu'à ces 25%. Alors, aujourd'hui, Lyon, c'est 21,5% de logement social. C'est mieux qu'avant, hein. On rappelle, c'était 17,72% en 2001. Donc ça veut dire qu'en 19 ans, on a augmenté de 17 à 21,5%. Donc c'est au-dessus des 20% demandés à l'époque. Mais c'est encore insuffisant et c'est aussi inégalement réparti. C'est le gros problème et c'est l'objectif de cette loi, c'est de qu'on vive tous ensemble en fait. Donc, Monsieur Doucet a expliqué, il veut faire construire à peu près 10 000 logements, un peu moins, 2 000 par an à peu près pour durant sa mandature, pour essayer de faire de la mixité. Alors il va y avoir un plan pluriannuel d'investissement. Enfin, après il y a tout le détail. Il y a aussi derrière tout ça, en dehors du logement social, une idée d'accès à la propriété accessible à tout le monde. On sait que on a crevé les plafonds cette année à Lyon, un record battu, 5 600 € le mètre carré dans le neuf dans notre belle ville. Alors je sais pas qui peut s'acheter un appartement à ce prix-là. Enfin en tout cas les riches, mais pas ni les classes moyennes du coup maintenant presque, ni les pauvres. Donc il y a aussi de la part de la métropole de Lyon l'idée de se battre contre pour lutter contre ces achats qui seraient trop chers, de faire du logement social qui soit ensuite basculable en accès à la propriété pour les classes moyennes basses en fait, puisque les très pauvres ça risque d'être très très difficile, mais voilà, il y a un entre-deux, c'est plutôt une bonne idée. Il y a aussi l'encadrement des loyers, enfin il y a plein de choses qui sont faites de la part de la mairie. Enfin, qui sont dans les projets. On fera le bilan après, pour voir ce qu'ils ont fait. Puis dans la série, on se fout des pauvres, on n'en a rien à faire, voire on les méprise. On a appris que ça y est, il y avait un coup de pouce pour les plus précaires, enfin en tout cas pour les smicards, donc revalorisé de 0,99%. Bon, ça fait beaucoup, mais ça fait 1%. Donc 15 € par mois. Ouais, c'est le gouvernement qui a annoncé ça, donc mardi, à l'issue du Conseil des ministres. Alors c'est totalement ridicule. Et c'est mécanique, puisque c'est lié au calcul qui est avec une belle formule, lié à l'inflation, à l'augmentation des prix. Donc voilà. Donc le gouvernement donne cet obol de 15 €, mais ils le font contraint et forcé. D'ailleurs, il l'avait dit, Monsieur Castex, qu'il était pas, il y a quelques semaines, il n'était pas pour un coup de pouce au SMIC. Il l'a prouvé, il n'y a pas de coup de pouce, c'est juste une augmentation pour rattraper l'inflation ou l'augmentation des prix. Bravo, on les remercie. Gabriel Attal, porte-parole de ce gouvernement de droite, à l'issue du Conseil des ministres, a dit je vais pas dire sa phrase, mais je résume. Il a dit, mais vous inquiétez pas pour les pauvres smicards là, qui s'en sortent pas, il y a la prime d'activité qui est renforcée et qui va vous permettre d'avoir un peu plus d'argent, donc de 136 à 236 euros par mois. On rappelle le principe, les patrons privés ne payant pas assez leurs salariés pour vivre dignement, l'État compense. Voilà, c'est ça le principe de cette prime d'activité. C'est juste la honte totale. C'est l'accompagnement du capitalisme de la part de l'État. On subventionne en fait les emplois pas chers. C'est ça l'idée. C'est juste à vomir. Voilà ma petite rubrique. Les pauvres en chient et vont continuer à en chier. Toi, t'as parlé des riches, moi je parle des pauvres.
Ouais. Faut savoir pourquoi les gens sont pauvres.
Voilà, comme ça on parle des riches, on les déteste. Et après on a un saignement en parlant des pauvres et on déteste encore plus les riches.
Nous allons ouvrir une page de nourriture si tu veux.
Ouais, on va parler bouffe. Je suis à fond.
Je te laisse faire d'abord.
Bon, alors je vais parler du couscous. Ouais, vous l'avez vu l'info.
Tout le monde parle du couscous.
Ouais, mais c'est génial. Donc, bah oui, attends.
Ça énerve les gens, il y en a.
Ah bah tant mieux. Alors c'est un plat qui est né, on rappelle, dans le nord de l'Afrique. Donc c'est un projet, alors ça vient d'être déclaré patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, comme la charcutaille lyonnaise, comme d'autres trucs.
Mais il y a plein de trucs.
C'est un vrai patrimoine culturel, le couscous. Donc ça a été accepté. Alors il n'y a pas que... Alors on parle souvent du Maghreb. En fait, c'est pas que le Maghreb. Ça va jusque au nord, une partie de la Mauritanie. La Mauritanie, c'est le pays qui est entre l'Afrique noire et le Maghreb. Hein. Si vous n'avez pas, vous n'êtes jamais allé en Mauritanie, vous savez pas de quoi je parle. Mais si vous êtes allé en Mauritanie, vous savez que c'est compliqué justement cette cohabitation. Donc voilà, il y a un bout de Libye. Voilà, l'univers culturel du couscous n'est pas lié à l'univers des frontières du nationalisme et de tout ça. Et pourtant, le nationalisme s'est investi dans cette reconnaissance, puisque au départ, c'est l'Algérie qui est allée tout seule en 2016, qui voulait en disant, je demande l'inscription du couscous. Alors, du couscous algérien, hein, parce que voilà, c'était eux, le couscous, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors ça a gueulé dans tous les dans les pays autour, et surtout au Maroc, hein, qui est l'ennemi de l'Algérie, entre autres. Finalement, il y a eu des grosses négociations et ils sont arrivés à se mettre ensemble, donc c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, pour déposer ce projet. Donc voilà, c'est plutôt un beau symbole. Ça montre que finalement la culture et la culture culinaire peut réussir là où la politique traditionnelle échoue. Hein, on se rappelle que l'Algérie et le Maroc, ils sont en bisbille, notamment sur le Sahara occidental, et que voilà, ils font pas à Miami souvent. Donc c'est plutôt positif de dire que la bouffe, ça a réuni. Ah, puis il faut rappeler, hein, que le couscous, c'est pas simplement manger de la graine avec des légumes et de la viande. Il y a toute une histoire sur le couscous. Il y a une histoire importante dans ces régions-là, parce que c'est quand ils se sont mis à faire cuire notamment la vapeur, la semoule, et puis à mélanger avec les légumes, qu'ils ont amélioré leur bouffe, en fait. Hein, on se rappelle, c'est des pays où il n'y a pas autant de pluralité de culture qu'il pouvait y avoir dans certaines parties d'Amérique du Sud ou d'Europe. Et du coup, dans les historiens, les anthropologues, ils expliquent bien ça, que le couscous a été une étape importante dans l'amélioration gastronomique. Alors ça date il y a très longtemps. Donc ils estiment que c'est une étape importante. Donc c'est pas simplement un mec très bon à manger, etc. C'est aussi quelque chose qui est lié à l'histoire de la culture et de l'amélioration du niveau de vie, quelque part, des populations sur cette zone qui avait pas de nom d'Algérie, de Maroc ou de choses comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Puis ce qui est marrant avec le couscous, c'est que pendant très longtemps, dans les sondages, on disait c'était le plat préféré des Français. Ça rappelle que le couscous, alors au début au gré des échanges, ensuite avec l'aspect négatif de la colonisation, mais ça a ramené quelques éléments culturels positifs, et beaucoup, hein. Si on regarde la langue française, on a beaucoup d'apports qui nous viennent du nord de l'Afrique et de l'arabe notamment. Et puis ensuite, il y a eu les migrations qui ont permis à ce plat de devenir quelque chose d'important jusque dans les années 90, on va dire, en France. Alors ça a un peu perdu parce que aujourd'hui d'autres influences culturelles sont venues s'implanter. Hein. On pense au sushi, on pense à des trucs comme au burger, où on trouve des burgers à tous les coins de rue. Mais pendant très longtemps, le couscous a été vraiment un plat très important pour la France. Et donc voilà, c'est un truc presque universel. Enfin, on aimerait que ça soit presque universel, couscous, comme la pizza ou le sushi, parce que ça, il y a une vraie qualités là-dedans. Donc voilà, j'avais envie de défendre le couscous aujourd'hui.
Ouais, alors c'est un plat qui est aussi très différent selon les territoires, selon les familles.
En fait, chaque famille a sa recette.
Non, alors c'est pas tant ça. Mais c'est le principe du ragoût, c'est qu'à un moment aussi, les territoires ont des habitudes entre les épices. Il y a eu en Tunisie, il y a des endroits où il y a de la pomme de terre. Et puis après, effectivement, les familles, moi dans la mienne, on y met de la courge l'hiver parce que on est en France et que la courgette, ça n'existe pas. Et qu'à un moment, au-delà du pois chiche, il faut bien manger quelque chose avec ta semoule.
Voilà, mettais ce que t'avais, ouais.
Et ben voilà. Donc, on va parler autre nourriture maintenant et on va revenir à un travail qui est fait par Foodwatch qui nous a ressorti son calendrier du vent.
C'est quoi du vent ?
Ben, du jeu de mots sur l'avant, du vent.
Ah, l'avant, oui.
Du vent, je te pipote. Et donc, on a tous les jours une petite, sur Internet...
une petite news.
Une petite news information. Sur un produit pourri, hein. Ou en tout cas... Alors, ça parle soit du contenu...
Un produit qui triche.
Soit du contenant, soit de la provenance, soit du prix. C'est effectivement un produit qui triche. C'est le principe, par exemple, du délice de courgette aux chèvres, où le chèvre dedans, en fait, c'est de la poudre de chèvre. Donc, tu vas la chercher, ta chèvre, hein, j'allais dire, avec son lait
dedans. Poudre de chèvre, enfin, de fromage de chèvre.
Fromage de chèvre.
Ouais, parce qu'ils prennent pas la chèvre pour en faire de la poudre.
Non, puisque du coup, c'est le principe. Je dis ça exprès parce qu'en fait, c'est écrit dessus la boîte, hein, quand même, de délices de courgettes aux chèvres de Liebig. Et c'est bien écrit aux chèvres. Déjà, c'est.
Donc, c'est pas au fromage de chèvre, c'est aux chèvres.
Voilà.
Ah ouais, c'est un raccourci.
C'est des raccourcis de langage qu'on retrouve beaucoup dans les appellations industrielles, quand même, il faut le dire. Alors, moi, j'ai retenu quelques produits. Les papillotes Révillon, qu'on connaît bien dans la région avant qu'elles se soient exportées de partout maintenant dans les supermarchés en France. Révillon qui continue à mettre de l'huile de palme et qui a l'air d'en avoir strictement rien à faire que Foodwatch les critiques et les attaques parce qu'il y a des industriels qui ont répondu depuis. Hein, et puis certains assez rapidement. Moi j'aime beaucoup les escargots de Bourgogne de Monique Ranou que je vais ouvrir là, tout de suite. Donc mon calendrier de l'avant, on était le 16. Alors ce que j'aime beaucoup c'est Intermarché Les Mousquetaires qui propose donc Monique Ranou en marque, en sous-marque, distributeur. Ce sont des escargots de Bourgogne à la bourguignonne parce qu'au cas où tu sois un peu stupide du cerveau et que t'aies pas compris comment c'est fait. Sauf que là on nous trompe un peu puisque l'escargot de Bourgogne c'est non pas qu'ils viennent de Bourgogne mais c'est l'appellation de l'escargot. C'est comme le melon de Charente, vous savez, c'est le melon de Charente. C'est-à-dire que c'est des appellations du produit et non pas de sa provenance. Et là, on essaye un peu de nous avoir dans le cerveau, puisqu'en plus de ça, il y a un petit bleu, blanc, rouge le truc. Sauf que les escargots, ils viennent de Pologne, donc rien à voir. Ils sont peut-être à la bourguignonne, il fallait bien le dire. Comme ça, vous savez, c'est une. Mais on nous a bien écrit aussi label rouge dessus, comme ça, pif, paf, boum, tout va bien. J'ai retenu aussi Richemont. Alors attendez, je vais juste faut que j'ouvre Richemont.
Grosso modo, le principe du marketing et de la pub, c'est de tricher. Quand même.
Oui.
Ouais, c'est un peu ça. Enfin, moi,
alors, il y a aussi les rillettes de thon blanc guyanaises qu'on trouve beaucoup dans les rayons frais, ultra frais, comme on dit maintenant, des supermarchés, avec du thon qui vient de la Bretagne. On a l'impression sur l'appellation, quand on lit bien, qu'effectivement, le thon, il s'est jeté sur la plage pour aller lui-même se mettre dans la casserole et se faire cuire. Bon, la vie, elle n'est pas si simple. Mais vous avez aussi la fondue aux trois fromages qui est intéressante. La rillette de poulet rôti en cocotte de Bordeaux Chenel, là, est attaquée sur son contenant, puisqu'en en fait, c'est très vide sous le contenant. Si tu le retournes, tu pourras t'apercevoir qu'en fait, la boîte, elle est petite. C'est-à-dire qu'il y a un gros trou en fait, dessous, hein, ce qui permet d'en mettre beaucoup moins et te le faire, évidemment, acheter un truc que tu penses
volumineux,
bien rempli, mais qui ne l'est pas. J'ai perdu ma raclette classique Richemont, donc je vous disais, alors là, c'est une histoire de prix aussi, c'est que tu as un gros emballage. Tu te dis super format familial, comme ça, on va pouvoir manger beaucoup ou partager à plein avec des masques, et ben en fait c'est plus cher que quand tu l'achètes en petit. Hein, ils ont fait le test quand même à Foodwatch, ils sont pas bêtes non plus, il et elle. Donc vous avez tout un tas de produits comme ça qui sont attaqués. Alors vous allez me dire c'est très restrictif parce que c'est un calendrier du vent, mais en même temps ça démontre juste un principe tout bête, c'est que l'agroalimentaire et son marketing et ses emballages et son contenu nous mentent assez fréquemment. Et si jamais c'est pas du mensonge, c'est quand même de la tromperie en mettant par-ci par-là des appellations plus ou moins d'ailleurs loufoques, et voilà, des petits drapeaux qui vont bien pour nous faire dire que c'est vachement classe. Donc voilà, je trouve qu'il faut continuer puisque c'est dévoilé chaque jour, donc on va sur le site et puis on clique. Et puis alors une dernière, je sais, il faut que tu causes encore derrière.
On n'est pas obligé.
C'est là, Que Choisir qui s'est intéressé à ce que vaut le champagne à moins de 12 euros d'Intermarché. Alors, c'est marrant de faire des sujets là-dessus, puisque alors tout de suite, je vais vous dire qu'en fait, le principe de Que Choisir, c'est pas de taper sur les produits à bas prix, c'est de se demander qu'est-ce que ça vaut, et en disant que attention, on peut trouver des choses très intéressantes, mais faut-il encore savoir ce qu'on boit ? Alors, moi, ce que j'aime, c'est surtout l'analyse qu'ils en ont mis, parce que des fois, c'est très technique que choisir. Et là, ça l'est, mais c'est très marrant. On nous explique donc qu'il y a un champagne Gicontet père et fils et Léo de Virois. Donc, le Gicontet père et fils arbore une robe très pâle. La montée des bulles est correcte, mais ces dernières sont moyennes et surtout violentes et intenses, ce qui montre un manque de matière dans le raisin. Le nez est faible, la bouche est plate, avec un dosage dominant sans outrance. Bon, on nous dit, les œnologues de la maison travaillent correctement, même si la matière première est faible. Bon, c'est quand même une analyse technique, mais un peu poussée. C'est
bon, ça nous dépasse un peu, voilà. Des fausses analyses techniques.
Champagne Léo de Virois est produit, lui, par les coopérateurs de champagne à Faverolles et Coëmille, qui se présentent comme négociants manipulants. Sa robe est pâle, avec des reflets verts, et les bulles sont rares. Le nez est peu expressif. L'attaque est agressive, acide, et la bouche est courte. Le dosage est très présent et masque la faiblesse du raisin. Si cette cuvée est loin d'être catastrophique, elle ne déclenche aucun enthousiasme, à la rigueur, pour un verre en toute fin de soirée.
Bon, en fait, acheter une bonne bière, ça coûtera moins cher.
Mais ce qui est marrant, c'est que c'est quand même très analysé. Tout ça pour nous rappeler plus sérieusement que ce sont que la grande distribution font appel à des vins de taille. Le vin de taille, c'est le résultat du deuxième pressurage des mares de raisin. Donc c'est moins qualitatif. Donc forcément, c'est moins cher. Hein, parce qu'en fait, on va demander à des producteurs d'aller tirer un peu le truc, et que c'est vrai qu'il y a un moment, il y a des producteurs aussi qu'il faut vendre dans des périodes un peu plus compliquées, et qui participent donc à des cuvées qui sont pas très bonnes et qui ont pas forcément beaucoup d'intérêt, et qui fait que quand on n'y connaît pas grand chose, on se trouve avec un truc qu'on va trouver un peu dégueulasse, alors qu'on peut avoir un très bon produit effectivement, mais ça coûte plus cher,
et qu'on n'est pas obligé de boire du champagne,
mais voilà. Mais c'était très drôle parce qu'il y a cette analyse quand même très technique qui nous est proposée, et je trouvais ça plutôt rigolo, quoi.
Alors il reste quelques minutes, je voulais te donner deux petites infos au niveau de la rubrique ni Dieu ni maître contre les religieux de tous bords et les croyances irrationnelles qui nous envahissent. La bonne nouvelle là, c'est l'ancien ambassadeur du Vatican en France, Luigi Ventura, qui a été condamné donc pour des agressions sexuelles sur 5 hommes entre 2018 et 2019. Donc il a pris 13 000 euros d'amende au terme du préjudice moral et 9 000 euros de frais de justice et des mois de prison avec sursis. C'est plutôt une bonne nouvelle. Les cinq hommes qui sont allés en justice ont galéré, ont hésité parce qu'ils s'attaquent à une institution. Il faut savoir que en tant qu'ambassadeur, il était protégé, et c'est le Vatican qui a décidé de le lâcher pour qu'il aille devant la justice. C'est pas courant, c'est pas souvent. D'habitude, ils sont jugés au Vatican en catimini, puis il se passe rien. Donc voilà. Alors, l'avocate de l'agresseur religieux a qualifié ce jugement de navrant, parce qu'elle trouve que ça va trop loin. Moi, bizarrement, j'avais trouvé que c'était un peu gentil. Alors, c'est pas des grosses agressions sexuelles. Il a pas attaqué des petits garçons, des petites filles, et il les a violés dans des trucs horribles, avec du sang qui gicle. Mais en fait, dès le départ, c'est une agression sexuelle. Il passait des mains aux fesses dans des cocktails, des choses comme ça. Et toute agression sexuelle mérite d'être condamnée. Et du coup, symboliquement, c'est important qu'il ait cette peine. Même si la description des faits peut nous paraître, quand on est extérieur, un peu légère. Et ben non, en fait, les gens qui ont vécu ça, ils l'ont vécu comme une vraie agression sexuelle. C'était important. Et il était symboliquement important qu'il soit condamné. Ils vont peut-être faire appel, ce qui serait triste, mais voilà. Et puis un petit mot rapide encore sur les thérapies de conversion qui sont... alors il y a pas mal de rapports là-dessus, notamment... de Outright Action International, qui est une organisation de défense des LGBTI qui est basée à New York et qui a analysé pas mal ces thérapies de conversion où on oblige, où on fait tout pour que des personnes retrouvent l'orientation sexuelle que les religieux aiment bien, que les gens aient par rapport à leur sexe de naissance, etc. Avec des souffrances atroces, vous connaissez, vous avez peut-être déjà vu, il y a pas mal de films et documentaires là-dessus, et c'est souvent c'est presque tout le temps une origine religieuse. Et bien justement, il y a un groupe de 300 dignitaires religieux de 35 pays qui se sont réunis sous le nom de la fondation britannique Ozan. Il y a Desmond Tutu, hein, qui est l'archevêque sud-africain, copain de Nelson Mandela dans la lutte pour l'émancipation de l'Afrique du Sud. Il y a pas mal d'anglicans, il y a des musulmans, des juifs, tout ça. Ils disent non, faut arrêter, faut interdire. Ils demandent, eux, carrément l'interdiction dans la loi de ces thérapies de conversion hein, qui sont des horreurs absolues pour les personnes qui les subissent. Et ça va loin. Alors que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pays qui les interdisent. Il y a le Brésil, l'Équateur, Malte, Taïwan. Vous allez me dire, dans les autres pays, c'est ça se fait pas forcément. Il y a des projets en France, en Allemagne, pour pénaliser ces thérapies de conversion. Ça serait bien. Et le but, c'est alors déjà de montrer que c'est pas parce qu'on est croyant qu'on est d'extrême droite et qu'on est homophobe. C'est pas tous les jours hein, qu'on a des choses comme ça. Et puis surtout, ils demandent que les pays aillent plus loin pour empêcher ces choses-là, ces horreurs-là d'arriver. Donc voilà, je voulais signaler ça.
Oui, deux secondes pour dire que moi je suis un peu dégoûtée puisque l'homme qui avait été condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis pour un jour raciste et sexiste envers Julie Hainaut, journaliste lyonnaise, était relaxé hein, sur la cour par la cour d'appel puisque le délai de prescription est écoulé. Franchement, ça fait chier, pardon pour le langage, mais elle s'est battue pour faire reconnaître ce qu'elle a vécu. Bon, voilà. Quand on sait qu'à côté de ça, on a des syndicalistes qui se font attaquer sur les pentes à la sortie d'une distribution et de récupération
de jouets pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'offrir des jouets à leurs enfants,
fracassés quand même d'une manière extrêmement lâche
par deux militants d'extrême droite,
par plusieurs militants,
pas que deux, ils étaient plus,
je crois que c'était sept. Ils ont attendu quand même que ces personnes soient seules pour pouvoir les bastonner. C'est vraiment, mais alors d'une lâcheté, il s'agit pas d'une bagarre entre fascistes et antifa comme aime à nous le dire monsieur Collomb à l'époque. Il s'agit vraiment là d'un acte c'est vraiment absolument scandaleux. Il y a eu un peu heureusement de la presse au niveau national, mais voilà, évidemment on amène tous nos soutiens à tous ceux et toutes celles qui chaque année ont des actes de résistance et puis surtout des actes simplement de solidarité et qui aujourd'hui encore une fois peuvent se retrouver à l'hôpital tabassé quoi
par des fachos. Et on n'a pas beaucoup d'espoir hein, au niveau de la justice. On se rappelle de la dernière attaque du café place Colbert, juste à côté de la librairie, qui a été attaquée. Il y a des images, des caméras d'hydrosurveillance, il y a plein de choses. Il n'y a rien eu, la justice, pourtant il y a eu moult plaintes. La flicaille n'enquête pas quand ça concerne l'extrême droite, sauf quand ils n'ont pas le choix.
C'est pas que la flicaille, c'est aussi la justice. Il y a vraiment
les deux. L'alliance flicaille-justice fonctionne bien pour protéger l'extrême droite, en tout cas à Lyon.
Voilà. Mais ça va aller, hein, vous inquiétez pas. Hein. 2021, ça sera super.
Ça peut pas être pire.
Bah, voilà. Si, ça pourrait, mais on va quand même être optimiste, écoute.
Il est bientôt 45, donc on va
devoir se téléporter.
Parce qu'il va falloir rentrer en courant.
Voilà. On vous souhaite une bonne soirée à l'écoute des autres émissions et de la bande continue quand il n'y a pas d'émission. Et puis, on se retrouve peut-être.
La semaine prochaine.
Pour ceux et celles qui seront désespérés
On fera une émission la veille de Noël.
Nous verrons bien. Voilà.
Parce que nous, les fêtes religieuses, c'est pas notre truc, hein, c'est ça.
On va vous laisser. Donc, parce qu'il faut vraiment qu'on y aille.
Allez, c'est
ciao.
Bye bye.